Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast. Tout à l'heure, nous partirons dans un petit village du sud de la France où s'est tenu il y a quelques jours un festival international de journalisme. Vous entendrez un journaliste scientifique et un chercheur revenir sur la pandémie de Covid-19, son traitement journalistique et le développement de théories complotistes. Mais d'abord, et comme la semaine dernière, on souhaiterait vous présenter deux MOOC français. Vous savez, ces revues sans publicité qui sont un joli mélange entre des magazines et des livres. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Labrasserie. Salut Juliette.
Bonjour Steven.
Le point commun des revues dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est qu'elles se veulent locales. Commençons d'abord par la revue Far West, dont le premier numéro est paru en avril 2021. Far West, au départ, c'est un média en ligne, local et indépendant.
C'est un site internet né en 2017. Son but, questionner le monde et raconter notre époque depuis le sud-ouest de la France. Le site propose des histoires en long format sous forme de feuilletons exclusivement réservés à ses abonnés. C'est d'ailleurs son slogan « Far West, des formats longs au circuit court ».
Far West est un média hybride qui propose à la fois de l'écrit et de la vidéo. La rédaction a aussi créé une association d'éducation aux médias qui s'appelle « Les Amis de Far West ». Mais après tout ça, pourquoi avoir créé une revue papier ?
Eh bien, j'ai discuté avec Flo Laval, le directeur de la publication de Far West et la rédactrice en chef Clémence Postis. Ils m'ont expliqué pourquoi.
Notre audience, depuis le début, la communauté nous a toujours demandé « Mais pourquoi vous ne ferez pas du papier un jour ?» J'ai l'impression que si on doit faire un média local, en numérique, il faut qu'il y ait de l'actu. Il peut y avoir du long format, mais il faut qu'il y ait aussi de l'actu. Nous, on a toujours pris le parti pris de ne pas faire d'actu. C'est pas là qu'on est bon. Là où je pense qu'on est relativement compétent, c'est pour faire des longs formats. Mais sauf que faire que du long format local, en ligne, on est une sorte de niche dans la niche et c'est difficile de trouver une audience là-dessus. Et notre communauté nous l'a dit. Moi, j'arrive pas à vous lire sur web parce que c'est trop long format. Il y a que des longs formats. J'arrive pas à lire aussi long, quoi. On m'a dit, si la communauté nous en parle, on va aller sur le papier. Et pour l'instant, ça me semble pas déraisonnable puisqu'on se rend compte qu'on arrive à davantage vendre d'objets papier que de vendre d'objets numériques.
Far West a gagné 1000 abonnés depuis le lancement de sa revue. C'est en plein confinement que l'équipe éditoriale a décidé de lancer ce nouveau semestriel. Elle a fait un constat. Face à la pandémie, face au réchauffement climatique, le plus important aujourd'hui n'est pas d'être optimiste, mais bien d'avoir du courage. Flo Laval et Clémence Postis m'ont raconté pourquoi ce seul mot titre cette première revue.
Être optimiste ou pessimiste, c'est quelque part une grille de lecture qui ne nous paraît pas adaptée. Si on dit qu'on est pessimiste, on ne va rien faire, et si on dit qu'on est optimiste, on peut être vite à côté de la gravité de la situation. Et donc du coup, l'idée de dire que l'époque n'est pas l'optimisme, c'était aussi de dire qu'elle n'est pas au pessimisme, elle est ni l'un ni l'autre. En fait, cette grille-là, elle ne marche pas, ce qui compte, c'est juste d'avoir du courage.
Et surtout, nous, depuis 2017, on a rencontré énormément de gens, et des gens qui, souvent, n'étaient pas célèbres, n'étaient pas militants, n'étaient pas... au-delà de la célébrité, voilà, qui n'était pas extrêmement actif, ou en tout cas n'avait pas l'impression de l'être, et qui pourtant avait un courage extraordinaire.
Et c'est aussi là la force de faire une revue locale, c'est que c'est le courage extraordinaire de vos voisins ordinaires, quoi.
Raconter des histoires d'anonymes autour d'une même thématique. Donc, Far West garde la même approche éditoriale que son site web.
Oui, au-delà de permettre aux abonnés de lire les articles long format sur papier, l'objectif est aussi de créer un rendez-vous pour leur communauté.
Faire des soirées, faire des rencontres autour d'un abonnement numérique, c'est un peu frustrant. Faire des rencontres et des soirées autour d'un objet papier physique qu'on peut présenter sur place avec les gens, ça change tout le rapport et ça change l'expérience, quoi. Et c'est aussi quelque chose qui est très fort et qu'on a développé et qu'on va relancer à nouveau avec l'objet papier, c'est que l'objet papier est là pour vivre et pour faire vivre la communauté autour, physiquement autour de l'objet, quoi. Et l'objet papier, pour ça, c'est le plus beau des médiums pour créer de la discussion en vrai, quoi. Ça nous paraît aussi quelque chose d'important au-delà de la ligne éditoriale. L'objet est fait œuvre de médiation, quoi. Et ça, c'est la plus belle des expériences, quoi.
Depuis peu, Far West fait le pari de lancer des campagnes de souscription web et papier au moment de la sortie de chaque nouveau numéro. Objectif, faire du bruit et surtout attirer de nouveaux abonnés. Passons maintenant à une autre revue qui a aussi opté pour le financement participatif. Pays, c'est son nom, est paru en mars dernier après une campagne qui a permis de réunir quelques 200 abonnés.
Chaque numéro de cette nouvelle revue, elle aussi semestrielle, dresse le portrait d'un territoire français. Précisons pour celles et ceux qui nous écoutent que le mot « pays » dans les régions françaises inclut aussi la notion d'appartenance à une communauté. À travers des reportages, des enquêtes et des portraits, la revue Pays s'intéresse pour ce premier numéro au pays malouin.
La région de Saint-Malo, donc, en Bretagne.
C'est d'ailleurs de là que vient la fondatrice de ce projet, Manon Bocken. Journaliste pigiste depuis 3 ans, elle s'est vite rendue compte que le local, c'est ce qui permet de comprendre ce qu'il se passe au niveau national.
Cette idée est venue un petit peu en travaillant en fait avec les différents médias. J'avais parfois un petit peu de frustration en fait de voir le traitement de certaines questions, de certaines actualités locales. Et j'avais l'impression que des fois qu'on avait besoin de plus de temps aussi pour expliquer les choses. Disons que j'ai eu un peu d'incompréhension par exemple quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France et le traitement médiatique de cette question. J'ai vraiment eu l'impression que du jour au lendemain on se réveillait et on disait oh là là tous ces gens qui sont pas contents voilà c'est quelle découverte on va aller les voir c'est vrai ils sont pas contents, ils sont sur des ronds-points et tout. Cette idée de pays, c'est aussi de montrer un petit peu et peut-être d'avoir en amont en fait cette vision-là et ces questions-là qui auraient pu revenir et qui peuvent revenir, d'essayer de les montrer et qu'en fait, bah oui, tout part du local en fait, que ces personnes qui sont sur des ronds-points, et bah ça s'explique et peut-être que ça peut résonner un moment à un niveau national et que tout le monde en entende parler. Donc c'est vraiment ça. Il y a aussi quelque chose en fait qui fait une sorte de terreau commun en fait et sur lequel on peut se retrouver et on peut se dire ah bah tiens il se passe ça à cet endroit c'est un peu similaire à chez nous. C'est aussi notre volonté dans le pays voilà de faire un peu se regrouper toutes ces questions qui finalement ne sont pas que locales en fait et qui peuvent intéresser tout le monde.
Pour rassembler des gens d'horizons différents autour d'un terreau commun, cela nécessite de changer de regard. Pour cela, la revue accorde une grande place à la photographie. Chaque sujet est travaillé en duo par un journaliste, rédacteur et un photographe. C'est comme ça que les articles sont approfondis, là aussi sur le temps long.
Comme Far West donc. Et c'est aussi en changeant de territoire à chaque numéro que la revue Pays entend développer une approche d'enquête au niveau local.
L'organisation éditoriale et le modèle économique de Pays permettent à cette revue de s'emparer de sujets sensibles. Sujets que ne traitent pas toujours les journalistes de la presse régionale par manque de temps, de moyens ou pour ne pas se mettre leurs sources à dos.
Quelque part, nous, le fait qu'on change de destination et de pays à chaque fois, ça nous laisse plus de liberté de ce côté-là d'enquêter. Et disons, c'est pas qu'on va moins être embêté, mais on restera pas là tout le temps. Donc on a la possibilité de faire ça et ensuite, voilà, de pouvoir enquêter sur un autre territoire et de pas se faire des ennemis de longue date qui après vont rendre les choses impossibles. Parce qu'on sait parfois que dans certains quotidiens régionaux, ça peut être compliqué une fois qu'on a enquêté sur quelque chose d'avoir des interlocuteurs et des interlocutrices. On n'est pas du tout dans une opposition ou quoi que ce soit. On pense plutôt qu'on est à quelque chose de supplémentaire, peut-être aussi pour les personnes au niveau local qui ont envie d'en savoir plus sur certains sujets et sur certaines omertas. Il y en a beaucoup. C'est souvent là que c'est plus difficile d'en parler.
On en parlait tout à l'heure, Pays existe grâce aux dons. Le financement participatif est à l'origine de la création de la revue qui n'aurait jamais vu le jour sans cet engouement.
Au dernier comptage, déjà 1500 exemplaires vendus et 2000 en réimpression. Mais uniquement dans la région de Saint-Malo ?
Non, car si chaque numéro de la revue traite d'un territoire, l'initiative a aussi été remarquée ailleurs en France. Et c'est ça aussi la force de Pays.
On est sur un pays à chaque numéro, parfois des territoires très différents. Donc cette idée de financement participatif et de campagne de financement participatif à chaque numéro, c'est la volonté d'avoir de nouvelles communautés à chaque fois, de s'intéresser, de parler aux personnes aussi de ces pays, de ces territoires, pour qu'elles découvrent l'initiative. Et puis si elles achètent le pays là et qu'elles n'achètent que celui-là, bah, tant mieux. Et puis si elles ont envie de s'abonner pour la suite, c'est encore mieux. Mais c'est aussi pour ça, c'est d'avoir à chaque fois de nouvelles sphères en fait, et d'essayer de les regrouper à terme, c'est vraiment l'objectif.
Pour son second numéro, la revue s'intéresse au Vercors, un massif montagneux du sud-est de la France. La sortie est prévue fin septembre.
Plus d'infos sur pays-revue.com. Merci Juliette.
Merci.
L'atelier des médias.
Partons maintenant dans un petit village du sud-ouest de la France qui s'appelle Couture-sur-Garonne, au bord du fleuve du même nom. 350 habitants y vivent à l'année, au dernier recensement. Mais depuis 5 ans, chaque été, des centaines de personnes s'y retrouvent pour un événement, le Festival international de journalisme, organisé par le groupe du journal Le Monde. L'ambition de ce festival est de permettre aux journalistes de discuter de leur métier, de leurs enquêtes avec le public. Cette année, il a notamment été question du traitement journalistique de la pandémie de Covid-19. Pauline Linard-Cazanave était à Couture sur Garonne du 9 au 11 juillet pour l'atelier des médias. Elle a réalisé des entretiens avec certains des intervenants. Par exemple, Yves Siama. Journaliste, il est vice-président de l'Association des journalistes scientifiques. Il a commencé par raconter le début de la crise du coronavirus, une période pas évidente pour les journalistes.
On s'est retrouvé assez vite dans une situation de chaos pour plein de raisons différentes. D'abord, le manque total d'infos scientifiques, puisque c'était un virus qui n'existait pas avant. Ensuite, l'extrême électricité qu'il y avait dans le débat public, un peu alimentée par la peur, l'inquiétude, la tension. Et du coup, tout ce qu'on écrivait était extrêmement chargé émotionnellement et tendu. Et puis, globalement, les médias se sont retrouvés confrontés au fait qu'ils avaient très peu de compétences scientifiques en interne, sauf certains, bien sûr, mais quand même, globalement, la machine médiatique ne dispose que de peu de vrais journalistes scientifiques et du coup, s'est retrouvé particulièrement au début complètement incapable de suivre et d'éclairer ce qui est en train de se dérouler.
Est-ce que vous trouvez globalement que les médias ont fait leur travail correctement durant cette période avec votre recul ?
Alors, je dois dire que j'étais président de l'Association des journalistes scientifiques à l'époque et ça peut paraître prêché pour ma boutique, mais je trouve quand même que selon qu'ils avaient des journalistes scientifiques ou non, les médias n'ont pas du tout couvert le problème avec la même qualité. C'est-à-dire que ceux qui avaient des journalistes scientifiques ont très vite compris qu'il fallait les mettre au milieu du village. Que y compris dans les réunions de rédaction où jusqu'à maintenant ils occupaient le quatrième rang et on les faisait parler tout à fait à la fin, là ils se retrouvaient à côté du rédac chef à décider comment on titrait la une et est-ce qu'il fallait interviewer X ou Y ou pas. Mais il y avait beaucoup de médias qui n'avaient personne en leur sein à qui poser cette question. Et nous, on a vu arriver des coups de fil à l'association disant « recommandez-nous un journaliste scientifique, on n'en a pas ». Et je dois dire qu'il y a des médias qui se sont réarmés et qui ont improvisé assez vite et qui du coup ont réussi à faire rentrer des compétences, alors que d'autres ont jugé qu'ils pouvaient faire sans, qu'ils pouvaient traiter ça comme tout ce qui traite d'autres. Et du coup, ils sont très souvent tombés dans une succession de pièges qui a vraiment fait du mal à la compréhension de la pandémie.
Et quand vous parlez de cette succession de pièges dans lesquels ils peuvent être tombés, est-ce que vous parlez par exemple du fait qu'ils sont tombés un peu dans le suivi effréné de l'actualité, quitte à parfois relayer une communication gouvernementale qui n'était pas bonne ou qui s'est révélée être inexacte ?
Alors, un des pièges, bien sûr, c'est de suivre la parole gouvernementale de manière acritique, mais c'est un piège tout aussi grave que de suivre d'autres paroles non légitimes ou non fondées ou non expertes. Et je trouve que les médias, surtout au début de la crise, ont beaucoup péché par cela. Dès que quelqu'un avait un titre de médecin et qui disait quelque chose d'un petit peu croustillant, il se retrouvait à l'antenne. Et ça a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et voilà, on a vu des scientifiques aussi qui se retrouvaient promus alors que c'était même pas vraiment leur fond de compétences, ce qui se passait. Enfin, bref, il y a eu beaucoup d'errances autour des experts qu'on mettait en avant et beaucoup d'erreurs de fait.
Et en termes de ces errances dont vous parliez, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus celles que vous avez observées chez les journalistes en ce qui concerne spécifiquement le Covid-19 ?
Le péché originel des informatifs sur cette pandémie, c'est le professeur Raoult qui l'a commis. C'est-à-dire qu'il a promu un traitement au début, alors qu'on ne savait pas s'il marchait ou pas. Et puis plus tard, il a continué à le promouvoir alors qu'on savait qu'il ne marchait pas. Et pour moi, ça, c'était vraiment le péché originel, parce que après, il s'est retrouvé dans une position où il devait attaquer toute la communauté scientifique, puisque toute la communauté scientifique disait que son traitement ne marchait pas et que lui, il voulait continuer à le défendre. Du coup, il a entamé une entreprise de décrédibilisation qui ensuite s'est traduite par le fait que tout un tas d'autres professeurs, voire médecins, ont occupé les médias et on donnait le sentiment que c'était leur parole, qu'elle avait autant de valeur que la parole des vrais épidémiologues qui traitaient la pandémie. Et voilà, ça c'était pour moi la source de confusion la plus grave. Et puis après, petit à petit, ça a sédimenté. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Les gens qui continuent à promouvoir ces interlocuteurs-là le font en connaissance de cause parce qu'ils ont un agenda politique ou ils ont un business model qui repose sur le buzz. Mais au début, c'était moins le cas. Et ça a fait beaucoup de dégâts à ce moment-là.
En rebondissant sur ce que vous venez de dire, à l'ère des chaînes d'infos continues et des notifications mobiles à gogo, et alors que tout va très très vite sur les réseaux sociaux, j'imagine que quand même pour les journalistes, c'était pas très facile de garder la tête froide, même si c'est leur travail, même si c'est leur responsabilité. J'imagine qu'il y avait une grande tentation d'aller au rythme des infos qui sortaient.
Oui, alors il y avait beaucoup d'injonctions contradictoires dans ce qui était attendu des journalistes, c'est-à-dire qu'il fallait répondre aux questions vite, il fallait y répondre avec exactitude, et puis en même temps il fallait pas être alarmiste, il fallait donner tous les bémols nécessaires, en même temps il fallait explorer les pistes minoritaires, que ce soit pour les traitements ou pour les mesures de santé publique. Donc on s'est retrouvé un peu dans un tourbillon. Ça a été compliqué aussi par cette irruption des réseaux sociaux. Finalement, le Covid a été la première pandémie de l'ère des réseaux sociaux. L'épidémie de grippe précédente, je pense que Facebook et Twitter avaient peut-être déjà 2 ou 3 ans d'âge, mais ils n'avaient pas du tout la même surface. Donc là, on s'est retrouvé avec des nouvelles règles du jeu. Et je pense qu'on a peut-être trop suivi, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est un peu fait imposer notre agenda et nos ordres du jour et nos sujets de papier par ce qui traînait sur les réseaux sociaux. Twitter a vraiment joué un rôle. Enfin, tous les journalistes étaient dessus et parfois s'auto-intoxiquaient les uns les autres avec l'importance d'un sujet, alors que finalement c'était un sujet qui agitait un nombre de gens assez modeste. Hein. Donc on s'est retrouvé un petit peu avec la phase la plus radicale, la plus extrémiste et la plus complotiste de l'opinion, qui, par le biais des réseaux sociaux, puis de CNews et des radios affiliées, et puis un peu par contagion comme ça, se retrouvait à faire les sommaires des bons journaux. Et on n'est toujours pas vraiment bien sorti de cette difficulté-là et d'une bonne gestion à la bonne distance des réseaux sociaux, je trouve.
Donc aujourd'hui, vous essayez toujours de trouver les solutions, de trouver votre rythme face à cette instantanéité.
Oui, la profession essaye de trouver le bon ton et le bon rythme. Ce qui est difficile, c'est que quand vous avez une fausse nouvelle, il faut la débunker vite. Toutes les études de psychologie montrent ça. Et j'ai même vu qu'il y avait des travaux sur le pre-bunk par opposition au debunk. C'est-à-dire que quand on sent que quelque chose va buzzer, il faut venir donner la parole scientifique avant même que la parole désinformationnelle se soit formée. Et c'est possible, hein. Des fois on voit arriver une étude et on se dit « oulala, ça va mal finir, il faudrait réagir tout de suite ». Mais en faisant ça, parfois on crédibilise des arguments qui autrement n'auraient pas vraiment circulé ou n'auraient pas circulé autant. Donc c'est vraiment, c'est une ligne compliquée à tenir. On choisit au cas par cas à quoi on répond, à quoi on répond pas, sans toujours savoir si on a fait les bons choix.
J'imagine que c'est aussi très dur pour un journaliste en cette période d'incertitude complète de dire « je ne sais pas » ou alors « je ne suis pas sûr ». Ça doit être très compliqué d'être dans cette position.
Oui, alors on essaye d'être nuancé, on essaye de mettre des conditionnels, mais c'est drôle, ici à Couture, il y a des tables rondes où on met en discussion la façon dont on a traité les choses. Et on entend des gens qui nous disent « mais arrêtez avec le conditionnel, soit on sait et on l'écrit, soit on ne sait pas et on ne l'écrit pas. Sinon, on va se retrouver qu'avec des papiers au conditionnel. » Et c'est vrai que ce n'est pas très fun à lire. Mais en même temps, nous, on est un peu obligés de suivre, y compris des hypothèses minoritaires parfois. On fait notre travail de journaliste aussi en disant « bon, bah, il n'y a pas grand monde qui croit ça, mais quand même, ça existe et ça fait débat dans certains milieux. Peut-être qu'un jour, ça deviendra l'opinion majoritaire. Donc, on doit le traiter. Voilà. En tout cas, ça fait partie des choix qu'on a à faire. »
Vous êtes donc le vice-président de l'Association des journalistes scientifiques. Est-ce que votre réseau de journalistes a travaillé ensemble pendant cette crise ?
On a travaillé ensemble, mais de manière plutôt informelle. En réalité, notre association est une association où il y a aussi des journalistes qui ne traitent que d'archéologie ou d'astrophysique. Il y a beaucoup de journalistes médicaux et santé, mais il y a un peu de tout. Tous les gens qui traitaient le Covid, quand même, se sont rapidement mis en lien les uns avec les autres et échangeaient. Et on essayait de confronter nos opinions sur les masques, le lavage des mains, Didier Raoult, enfin, l'hydroxychloroquine, d'autres traitements fantaisistes qui ont été proposés plus tard, l'ivermectine, etc. Enfin, on essaye vraiment de fonctionner collectivement pour donner à nos lecteurs et à nos spectateurs la meilleure information possible, en fait. C'est ça le but et c'est pour ça qu'on se met en association.
Donc vous arriviez à collaborer, à vous donner des informations, ou la collaboration n'était pas vraiment de cet ordre-là ?
J'appellerais pas ça à collaborer, en fait. C'est interagir. On interagit beaucoup et c'est important parce que le journalisme, c'est un peu par essence une profession solitaire. On signe de son nom, on prend sa responsabilité avec son nom. Mais en fait, on a vraiment besoin des autres. Hein. Et que ce soit pour faire un journal ou simplement pour se faire une opinion, c'est vraiment important de se confronter à d'autres pensées que la sienne, surtout en période d'incertitude et dans les moments très mouvants comme actuellement.
Avec cette pandémie, donc on a constaté une augmentation des fake news et donc le développement important de théories complotistes. C'est d'ailleurs un des sujets centraux de ce rendez-vous du Festival de journalisme de 2021. Est-ce que, selon vous, les sujets de santé sont plus susceptibles que d'autres d'être sujets à fake news ?
Je pense que c'est tout à fait évident. Je pense qu'il y a une charge émotionnelle dans les questions de santé qu'il y a dans pratiquement aucun autre champ médiatique, en réalité. On sait que toutes les épidémies de l'histoire se sont accompagnées de fausses nouvelles, de rumeurs. Simplement, la différence, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas autrefois et maintenant, ils existent. Mais ce qui fait naître les rumeurs, ça, c'est la peur et c'est quelque chose que la santé véhicule. Donc effectivement, là, on a vraiment subi un vrai déferlement et on a écrit dans un contexte d'électricité qui était inédit pour la plupart d'entre nous, la totalité d'entre nous presque. J'ai jamais travaillé dans des conditions comme ça.
Et dans le contexte donc toujours de crise sanitaire, puisque c'est le sujet principal en ce moment, considérez-vous que les initiatives de fact-checking ont prouvé leur utilité ?
Je suis très favorable à l'exactitude journalistique. Je ne suis pas convaincu par le fact-checking et la mode du fact-checking. En fait, derrière le fact-checking, il y a tout un tas de... Les gens mettent des choses différentes. Pour certains, c'est juste un accroche-lecteur. C'est-à-dire qu'on va poser une question, on va dire « Est-ce que c'est bien vrai que les masques protègent du Covid ?» En fait, on va faire un article normal, simplement on va le présenter comme un fact-check. Le fact-checking, tout dépend de la crédibilité qu'on accorde aux fact-checkers, en fait. Les complotistes, quand on leur oppose un fact-checking, ils disent « Oui, mais qui est-ce qui l'a fait ? C'est encore quelqu'un des grands médias, qui est dans la poche des millionnaires qui possèdent les médias, ou alors qui est complètement assujetti à Emmanuel Macron et donc son fact-check ne vaut rien. » En fait, la question, c'est de se constituer une crédibilité journalistique. Et ça, c'est la difficulté de l'heure, c'est de redonner une crédibilité aux médias. Pour moi, ça ne peut être fait qu'en faisant du journalisme de qualité, sur le long terme, qui donne la preuve semaine après semaine, mois après mois, qui ne s'est pas laissé embarquer sur des fausses pistes, que ses analyses sont sensées, sont équilibrées, qui l'avoue quand il se trompe. Bref, c'est une construction d'un bon journalisme crédible. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de recruter 3 fact-checkers. Et c'est pour ça que ça apparaît souvent comme la fausse solution au miracle, le raccourci génial. Mais en réalité, il n'y a pas de raccourci génial. Et pour moi, face à la déferlante de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, la vraie solution... Enfin, d'abord, il faut leur opposer des choses sur les réseaux sociaux de la part émise par les institutions crédibles, sanitaires, politiques aussi. Il faudrait une vraie présence et du gouvernement et du ministère de la Santé et des universités sur les réseaux sociaux en face de la désinformation. Et puis, à côté de ça, il faut construire des journaux de qualité, crédibles, bien financés, bien distribués, pas seulement... des titres marginaux et qui sont en train de mourir de faim. Et là, peut-être qu'on pourra lutter contre la désinformation un petit peu à armes égales. Mais je ne voudrais pas qu'on croie que c'est le travail des journalistes de lutter sur les réseaux sociaux pour la vérité. Les journalistes sont tous dans des médias sous-staffés. On a beaucoup de mal à produire l'information, à faire des enquêtes suffisantes et documentées. Si en plus, il faut qu'on passe 4 heures par jour sur Twitter à débunker les fausses nouvelles, c'est juste la mort de l'information programmée, quoi. Ce serait catastrophique.
Donc pour vous, ce serait davantage de la responsabilité des pouvoirs publics de travailler sur la formation aux médias, sur la formation à l'information, sur le fait de savoir comment s'informer ?
Oui, je trouve qu'il y a un vrai travail à faire des autorités scientifiques et politiques sanitaires de communication. Je suis désolé, je trouve que sur les vaccins, bon d'accord, on a un jingle de temps en temps, mais il faudrait beaucoup plus argumenter, varier les formes de communication, être présent sur les réseaux sociaux, essayer d'innover. Je trouve que c'est très bien de dépenser des milliards à acheter des vaccins, mais si on n'arrive pas à mettre ces vaccins dans le bras des gens, on a dépensé ces milliards en vain. Donc il faut vraiment payer une communication de qualité exacte, pertinente. Et il ne faut pas attendre des journalistes qui fassent ça. Il faut par contre aider les journalistes à construire des médias qui survivent et qui soient de qualité. Donc ça, c'est une autre branche, c'est une autre problématique qui est la problématique du soutien public aux médias, qui est à mon avis une problématique très importante parce qu'on a besoin de médias en démocratie. Mais ces deux problèmes, en bonne partie, disjoints à mes yeux.
Est-ce que vous trouvez maintenant... en juillet 2021, qu'il y a une partie du public qui est plus vigilant maintenant qu'auparavant lorsqu'il s'agit d'informations scientifiques ou sanitaires ?
Il y a plusieurs volets à cette question. Le public a fait d'énormes progrès en compréhension de la science, de l'épidémiologie, de la virologie. C'est vrai, bien sûr, qu'il y a des discussions de café du commerce, etc. Mais enfin, si on y réfléchit, on ne peut être que... admiratif de combien les gens ont compris de choses sur ce que c'était qu'un virus, sur ce que c'était qu'une pandémie, sur ce que c'était qu'un geste barrière, etc. En même temps, les gens ont absolument besoin, et c'est pas forcément les mêmes gens, quand on dit les gens, on fait toujours une généralité un peu floue, mais il y a des fractions du public qui ont absolument besoin qu'on continue à expliquer, y compris les choses de base. Et il y a eu une espèce de, finalement, différenciation dans le public. Il y a des gens qui comprennent tout maintenant, et puis il y a des gens qui sont restés hors de cause parce qu'ils ne s'informent pas beaucoup, ils s'informent sur les réseaux sociaux, ils ont des vies compliquées, ils n'ont pas les outils culturels, et il faut absolument continuer à leur parler, ne pas prendre pour acquis qu'ils sont au niveau de tout le monde. Et donc, il faut à la fois que les médias soient capables de faire cette différenciation et de continuer à parler à tout le monde et tirer tout leur public vers le haut. Et il faut, je le répète, que les autorités sanitaires et scientifiques fassent ce travail-là aussi parce qu'en période de pandémie, ça sauve des vies, que les gens aient des bonnes informations, que les gens comprennent quels sont les gestes qui les protègent et quels gestes les mettent en danger. C'est absolument une question de vie et de mort, et c'est notre responsabilité à tous en ce moment.
Merci beaucoup Yves Siama.
Je vous remercie.
Yves Siama, vice-président de l'Association des journalistes scientifiques, il y a quelques jours au Festival international du journalisme de Couthures-sur-Garonne. La crise sanitaire actuelle a vu le développement important de théories complotistes. Un chercheur en sciences politiques en a fait son sujet d'étude. Julien Giry dépend de l'Université de Tours. Pour l'Atelier des médias, Pauline Linard-Cazanav lui a d'abord demandé en quoi la pandémie de coronavirus a eu un effet accélérateur sur les théories complotistes.
Disons que le Covid-19 a joué à plusieurs titres. D'abord, elle a permis effectivement à certains professionnels du complot, pour qui le complot existait déjà, était préexistant, qu'il s'agisse d'un complot juif, d'un complot franc-maçon, d'un complot communiste, d'un complot chinois, russe, etc., de réactualiser finalement à l'aune de l'actualité leur logiciel. Le Covid-19 est venu comme surajouter ou surexemplifier un grand récit préconstitué où tout était complot. Pour d'autres acteurs sociaux, en revanche, effectivement, la Covid ou le Covid a joué une sorte de rôle de porte d'entrée vers des théories éventuellement conspirationnistes. Et à partir de l'événement, des individus se sont posés des questions qui peuvent être tout à fait légitimes au demeurant. Et pour un certain nombre d'entre eux, ça a pu être une porte d'entrée vers les sites conspirationnistes, vers les thèses conspirationnistes, mais pas pour tous.
Donc selon vous, le Covid aurait entraîné une certaine approche des théories conspirationnistes ?
Ah oui, clairement, on peut prendre ici un exemple assez manifeste, c'est le mouvement anti-vax. Le mouvement anti-vax, c'est un mouvement extrêmement ancien au sein duquel les théories du complot jouaient un rôle extrêmement marginal. Aujourd'hui, avec la Covid, on a vu beaucoup de nouveaux acteurs entrer dans ce champ de l'antivaccinisme, et cet antivaccinisme a été complètement phagocyté, pour utiliser une métaphore médicale, par les milieux complotistes et les milieux, disons d'extrême droite. Donc oui, la Covid a permis d'attirer des nouveaux publics vers le conspirationnisme, mais j'allais dire comme finalement chaque événement un petit peu extraordinaire, que ce soit une crise sanitaire, que ce soit par exemple la grippe de H1N1, la grippe espagnole ou encore la grippe russe de la fin du 19e siècle. À chaque fois, en période de crise sanitaire, des théories alternatives viennent remplir le vide, viennent remplir les espaces, viennent donner du sens à ce qui n'en a pas, viennent expliquer les mesures graves, les mesures privatrices de liberté et donner du sens.
Donc avant la pandémie de coronavirus, les médias étaient déjà en crise, ils connaissaient déjà leur crise du modèle économique. Est-ce que pour vous, cette crise des médias a été un terreau favorable pour le développement de ces théories complotistes ?
Alors oui, en partie. Il y a, à mon avis, trois éléments qui sont complémentaires dans le développement de ces théories du complot relativement à la Covid-19. Vous avez d'abord, c'est peut-être bête à dire, mais la maladie en elle-même, une maladie relativement nouvelle, source d'incertitudes à la fois scientifiques, à la fois médicales, etc., qui a elle-même été génératrice d'interprétations, disons, divergentes, que ce soit dans les plateaux télé ou chez les scientifiques eux-mêmes, par les experts des médias, etc., et qui a permis finalement de créer cette espèce de caractère anxiogène et finalement d'indétermination. Alors c'est tout à fait normal, puisque c'est un virus nouveau, encore une fois, c'est la science en train de se faire. Elle est hésitante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au moment où cette crise sanitaire est apparue, la parole publique, la parole politique, la parole médiatique, elle était totalement cacophonique. Si on regarde le gouvernement français, son action de début mars jusqu'au 17 ou 18 mars, date du premier confinement, on se rend compte que c'est tout à fait contradictoire. Restez chez vous, allez voter. C'est la plus grave pandémie que nous avons connue depuis un siècle, mais nous n'avons pas changé nos habitudes de vie. Les écoles vont rester ouvertes, mais les écoles sont fermées. Ne visitez pas vos personnes âgées, vos anciens, les EHPAD, mais quand même, n'arrêtez pas de vivre, allons au théâtre, etc. Donc il y a cette crise un petit peu de la parole publique, cette inaudibilité de la parole publique, au moment même où justement le peuple, les citoyens étaient en attente d'une réponse forte et claire. C'est des éléments conjoncturels, ils se greffent sur un élément structurel que vous avanciez, la défiance à l'égard des médias, la défiance à l'égard de la parole des professionnels de la politique, mais aussi défiance par rapport à la parole des autorités épistémiques dans les champs des sciences dures, les scientifiques, les savants, les sachants. Donc avec ces trois éléments-là, cette conjonction, elle a été tout à fait favorable à la production, à la diffusion dans l'espace public de récits alternatifs, à même de donner du sens à ce qu'il n'y en avait pas. Et parmi ces types de récits, il y a évidemment les théories du complot, mais on pourrait penser aussi à des formes de populisme médical, comme la réponse de Didier Raoult avec, voyez, c'est simple, il ne se passe pas grand-chose, moi j'ai un traitement rapide, efficace et pas cher. Quelque part, que ce soit les théories du complot, ça a été voulu, la maladie a été voulue par par exemple, je sais pas moi, l'Institut Pasteur, Big Pharma, pour nous vendre des vaccins, au moins on sait ce qui se passe. C'est terrible, mais ça donne du sens, on sort de l'incertitude. Cette conjonction, cette triple conjonction, elle a été totalement favorable à l'émergence de ce type de récit de régulation sociale alternative.
La rapidité de l'info, des chaînes d'information en continu et la pression sur laquelle se trouvent les journalistes pour aller au rythme de l'info en continu. Donc, est-ce que tout ça, cette pression, a accentué la présence de ces théories dans l'espace public pour vous ?
Alors, de dire que ça a accentué la présence de cette théorie, c'est très difficile à dire, en fait. Si on se place sur la période historique longue, c'est impossible de dire qu'il y a plus de théories du complot aujourd'hui que, par exemple, en 1930 ou dans la grande presse, on vous expliquait tous les jours que les juifs internationaux dominaient la finance. Et ça, c'était pas dans des médias, de troisième zone. Non, c'était dans la grande presse. Donc, c'est difficile, sans recul historique, de dire ça. En revanche, ce que font les chaînes d'information en continu, c'est qu'elles créent en continu des images, des contenus, des textes, des prises de parole qui sont elles-mêmes soit directement complotistes. On peut penser à certaines prises de parole sur l'immigration, sur une grande chaîne d'infos en continu type CNews et proposer des propos de M. Berkoff sur Sud Radio, etc. Mais aussi peuvent permettre à des acteurs, disons, marginaux ou contestataires, de créer des discours sur la base de la réinterprétation de ces images. On voit bien sur cette image que le rétroviseur est comme si. On voit bien dans cette image de Notre-Dame qu'il y a un monsieur qui est passé, qui a traversé. On voit bien que, d'une manière générale, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que les sources officielles sont les premières sources d'inspiration, les théories alternatives. Les théories alternatives existent en miroir des théories officielles. C'était vrai pour l'assassinat de Kennedy, c'était vrai pour les rapports du 11 septembre. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'abord la vérité officielle, puis la vérité alternative. Les deux se construisent de façon quasi concomitante. Ça, c'est tout à fait nouveau, je crois.
Une autre initiative qui a été prise par les médias pour essayer de lutter contre les théories du complotisme, c'est les sites de fact-checking. Est-ce que essayer de vérifier toutes les informations qui paraissent sur chacun des sites, les unes après les autres, c'est pas un peu quelque chose qui a finalement l'effet inverse ?
Alors, effectivement, c'est une question extrêmement ambivalente. Si les médias ne le faisaient pas, on le leur reprocherait. L'action des sites de fact-checkers, déjà, elle est de toute façon infinitésimale au regard du nombre de contenus, en particulier des contenus désinformationnels qui circulent dans l'espace public, en particulier dans l'espace numérique. Ça, c'est une première chose. Ils en sont tout à fait conscients. Il ne faut pas leur jeter la pierre là-dessus. La deuxième chose, c'est que ça peut avoir un intérêt réel pour des gens qui se posent sincèrement des questions et qui ne sont pas encore rentrés dans une carrière de radicalisation. Donc, c'est très important de le faire. En revanche, effectivement, si vous êtes déjà un complotiste convaincu, si Le Monde dit que l'article de Libération est tout à fait valable et que ce que dit par exemple Égalité et Réconciliation est tout à fait faux, vous n'allez pas être d'accord. Vous avez l'impression que c'est la preuve supplémentaire, la confirmation que de toute façon les médias du système, je mets ça entre guillemets bien entendu, se valident entre eux, valident l'information officielle et sont donc les agents du complot. On voit même que c'est parfois pire encore, c'est que plus il y a d'informations, plus il y a de fact-checking, plus il y a de contre-enquêtes journalistiques qui sont faites sur un phénomène pour dire que c'est faux, plus on a l'impression que c'est vrai. C'est comme une sorte de badge, de titre de noblesse. J'ai été fact-checké 17 fois, 17 fois ils ont dit que ce que j'avais dit était faux, ça veut dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment dans le vrai.
Et justement, la défiance envers les journalistes... Justement, la défiance envers les journalistes, est-ce que pour vous, elle a passé un cap et peut-être même un point de non-retour pendant cette pandémie, pendant l'année 2020 plus particulièrement ?
La première chose à dire, c'est que moi, quand je fais mes enquêtes, je me rends compte qu'effectivement, les gens sont très défiants des journalistes, mais c'est surtout qu'ils ont une très très mauvaise connaissance de ce qu'est la profession de journaliste. C'est assez normal. Ma foi, ils ne sont pas journalistes, ils n'ont pas fait d'études de journalisme, on ne connaît pas non plus toutes les professions, et c'est normal. Lorsqu'on les interroge finalement sur qu'est-ce que vous pensez des journalistes, ça vous dira les médias, les journalopes, tout ce vocabulaire que vous connaissez un peu spécifique à cette mouvance, mais lorsqu'on leur demande, mais en fait, de quoi vous parlez ? Ce sont toujours les mêmes noms. Et même nombre d'éditorialistes vedettes, de journalistes ou de personnalités omniprésentes sur les plateaux télé et de certaines émissions de télévision ou alors chaînes de télévision. C'est pas le journalisme en lui-même, en fait. C'est vraiment une forme de journalisme, une sorte de journalisme qu'on pourrait appeler l'éditorialisme pour aller vite et auquel il est reproché d'être très éloigné du terrain, ce qui n'est pas faux par ailleurs, d'avoir son avis sur tout, ce qui n'est pas forcément faux par ailleurs non plus, et surtout d'avoir souvent un ton extrêmement méprisant, moralisateur et surtout extrêmement normatif vis-à-vis de pratiques sociales qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont le droit de ne pas comprendre, mais qu'ils jugent immédiatement comme étant du complotisme, de la bêtise, de la paresse, de l'imbécilité, de la crédulité. Donc oui, je crois que cette défiance, elle existe. Elle a des raisons aussi profondes, Mais il faut l'entendre. Surtout, je crois qu'il faut l'entendre. Il ne faut pas la balayer d'un revers de la main. Il faut l'entendre et la prendre au sérieux. Si on veut justement qu'on ne passe pas ce cap qui serait de devenir une sorte, que certains franchissent d'ailleurs, une sorte d'anti-journalisme primaire et assez primitif.
Et le modèle économique des médias traditionnels, qui est donc basé aujourd'hui sur beaucoup la publicité et donc l'audience, est-ce que ça aussi, c'est un modèle qui est de nature à ouvrir la porte aux théories complotistes, en tout cas à faciliter leur existence ?
On disait tout à l'heure que plus il y avait de contenu en circulation dans l'espace public, plus il y a de possibilités de créer des vérités alternatives sur la base de ces faits. Effectivement, quand vous avez des heures et des heures d'images qui tournent en boucle sur des chaînes d'information en continu, que la petite actualité, le petit truc qui serait passé inaperçu il y a plusieurs années parce qu'il n'y avait pas de moment de le montrer, et aujourd'hui est monté en épingle. Et de fait, forcément, ça va créer des possibilités pour créer des vérités alternatives. Ça, c'est tout à fait clair. Ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été le développement de l'Internet, disons Internet participatif ou 2.0, qui a permis à chacun de se faire média. Donc oui, effectivement, l'économie aujourd'hui des médias basée sur le buzz, basée sur publier et ensuite éventuellement vérifier, qui remet en cause le modèle traditionnel du journaliste, c'était verified and publish. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est publish and verify if possible. C'est vraiment tout à fait, on est sur des modèles tout à fait différents et qui génèrent l'information, l'erreur journalistique. Cette erreur journalistique, notamment quand elle est mal expliquée, mal corrigée, ou pas expliquée du tout, ou pas corrigée, eh bien, elle permet aussi de donner du grain à moudre aux théories du complot. Je prends juste un exemple ici. BFM TV, en 2015, quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, parle à un moment d'un deuxième tueur. 5 minutes après, on n'a parlé plus de ce deuxième tueur. On ne s'est jamais su d'où était la source qu'il y avait un deuxième tueur, peut-être une rumeur, peut-être une source mal informée, peut-être quelque chose, mais on n'a jamais su ensuite qui s'était trompé, qu'ils avaient fait une erreur, ils ne l'ont jamais dit. De fait, quand vous entendez ça, deux heures après, vous revenez, vous rallumez, c'est extrêmement... Vous dites, tiens, c'est bizarre, il y a un truc, il y a des choses comme ça qui permettent de créer des théories du complot. D'autant plus que ces chaînes d'infos en continu, elles ont quand même un pouvoir d'impact assez important. Il avait été mesuré en 2013, après les attentats du marathon de Boston, dont vous devez vous souvenir, que les gens qui avaient regardé plus de 6 heures les chaînes d'information en continu américaines présentaient des états de stress post-traumatique plus importants que les gens qui avaient vécu la catastrophe en direct. C'est dire l'imprégnation que peuvent avoir ces chaînes d'information en continu par leur côté un petit peu catastrophiste, titrisé, avec des bandeaux, éditions spéciales, des musiques qui font peur, etc., etc. Il y a une dramatisation, une spectacularisation de l'information qui est elle-même effectivement génératrice de contre-discours et en particulier de discours conspirationnistes.
Est-ce qu'un autre des problèmes qui a permis aussi aux théories complotistes de se développer ces deux dernières années, c'est aussi l'exposition que leur donnent les médias à leur théorie et à leur mouvement?
Ah oui, moi je crois depuis des années que les médias parlent beaucoup, beaucoup trop de phénomènes qui restent des phénomènes marginaux. D'ailleurs, même dans les enquêtes et les sondages les plus mal faits sur le plan météorologique, et il y en a beaucoup, c'est pas tant l'adhésion aux théories qui progresse que leur notoriété. Ça dit quand même quelque chose. Quand toutes les semaines, vous avez un hebdomadaire qui, en plus de ses traditionnelles unes marronniers sur le pouvoir des francs-maçons, etc., toutes les semaines nous disent autant de Français sont complotistes, les réseaux complotistes de l'extrême droite, les ceci, les cela, effectivement, ça donne de la publicité à ce type de théorie. Et parmi ceux qui vont y avoir accès, alors tout le monde ne va pas y croire, bien entendu, évidemment que non, mais ça peut permettre de publiciser, de donner de la visibilité à certaines théories qui étaient tout à fait marginales. Et de la même manière, lorsque souvent on parle du complotisme dans les médias, on va trouver toujours la personne la plus extrême, celui qui va se promener avec une croix dans le dos en disant qu'il est le fils de Jésus, que la terre est plate et qu'il se transforme en reptilien, qu'il a vu un autre il y a quelques années sur M6, qu'il avait vu le président Pompidou se transformer en lézard de 3 mètres de haut dans l'abbaye de je sais plus quoi. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces phénomènes-là. Ces gens-là, je les ai jamais, jamais, jamais rencontrés. Ce sont vraiment des gens extrêmement marginaux. Ils ne représentent rien de ce phénomène. La plupart des gens qui croient à des théories alternatives, ils sont comme vous, comme moi, ils vivent dans la vraie vie de tous les jours. Il n'y a pas de problème. Pour certains, effectivement, qui sont les plus radicaux, et donc très peu nombreux par définition, effectivement, c'est plus compliqué de vivre en société. Mais pour l'immense majorité, ils croient des choses et parfois même ils le dissimulent parce qu'ils savent que leur croyance est objet d'une disqualification sociale.
Donc il y aurait une sorte de caricaturisation du complotisme par les médias qui en plus leur donne de la publicité et beaucoup ?
Tout à fait, il y a une caricature qui est faite des complotismes. Du coup, des complotistes par les médias est réduit toujours à des individus un peu dingos, un peu loufoques et qui croient à des trucs absolument incroyables. Alors que ce n'est pas le cas, il y a surtout un amalgame des gens qui se posent des questions sincèrement à ces gens-là. Vous êtes idiots, vous êtes des imbéciles, vous êtes des crédules, vous croyez tout ce que vous lisez sur Internet, etc., etc. Et ça, c'est tout à fait contre-productif. Parce que si vous voulez pousser les gens dans ces carrières de radicalisation, d'aller voir des forums où finalement il y a peut-être des gens qui vont répondre à leurs questions sincèrement, des forums complétés j'entends, et qui vont prendre leurs paroles au sérieux pour les happer vers des types de discours, eh bien c'est tout à fait contre-productif. Cette moquerie, cette disqualification, cette espèce parfois de mépris vis-à-vis de gens qui se posent des questions, elle est tout à fait contre-productive et pourtant elle est extrêmement présente, je crois, dans les médias de masse.
Est-ce que pour vous, il y a des médias qui jouent clairement leur rôle dans la lutte contre les théories complotistes ?
Mais je ne sais pas s'il faut lutter contre les théories complotistes, c'est ça la question. Il faut, je crois, mettre en garde les gens contre les discours les plus haineux, les plus dangereux, ça c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, les théories du complot, elles existent parce qu'elles répondent à des besoins sociaux, elles répondent à des défiances, à des défis. Ce n'est pas simplement, encore une fois, des dangereux propagandistes. Hein. Et encore faudrait-il se mettre d'accord sur ce qu'on entend par théorie du complot. C'est ça aussi l'enjeu de la discussion, parce que si croire à l'explication alternative d'un événement qui met en jeu l'hypothèse d'un complot, les études de recherche montrent qu'on est tous, ou qu'on sera tous, un jour, à un moment donné, tentés d'adhérer à plus ou moins large degré à une explication complotiste ou alternative d'un événement mettant en jeu l'hypothèse du complot. Donc on est tous complotistes, de ce point de vue-là, ou alors personne ne l'est. Mais dans les deux cas, c'est pas opératoire. Donc il faut qu'on donne une définition de ce qu'est le complotiste. Si on définit le complotiste comme un système de pensée, qui pense que le complot est partout, qu'on nous ment tout le temps, que tout est lié, que rien n'arrive par hasard, ça correspond déjà à des franges beaucoup moins importantes de la population. Et ces franges de la population, c'est pas en leur disant c'est pas bien, en leur disant voilà, vous voyez, ce que vous lisez sur le tel site de réinformation, c'est juste des bêtises, c'est du bullshit. Non, ça marchera pas, c'est vraiment contre-productif. Il y a des choses à faire, je crois, pour empêcher les gens de tomber dans ce type de piège. C'est la discussion, la prise au sérieux, ne pas moquer, ne pas caricaturer, ça c'est très important. Vous, moi, quand on a un copain, un ami, une frère, une sœur, quand on voit qu'il commence à un peu se poser des questions sur les trucs, on peut accompagner. Pas lui dire, mais t'es bête, mais non, c'est pas ça. C'est, regarde, on va regarder avec toi, tu penses que Le Monde, France 2, je sais pas, ma Libération, France Info, ils disent que des bêtises. Ok, pourquoi pas, c'est dans une certaine mesure, c'est sans doute vrai. Mais à l'inverse, pourquoi est-ce que tu dirais Égalité, Réconciliation dit forcément vrai, Riposte ID, c'est forcément vrai, Les Moutons Enragés dit forcément vrai, F de Souche dit forcément vrai. Non, applique ton doute, pareil, le même, à tout type de support. Et à ce moment-là, on essaie de créer une dynamique sans rentrer en conflit. Et je crois que c'est ça qu'on peut essayer de faire à notre niveau. Ensuite, il y a évidemment des choses à mettre en place, des programmes d'éducation critique aux médias, des programmes d'éducation aux médias à l'information, à la critique de l'image, à la réception de l'image, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais dans une perspective, j'allais dire, assez bienveillante, pas en disant, regarde, il y a des bons journalistes dans les médias traditionnels avec une carte de presse qui font bien leur boulot, et sur l'autre côté t'as des ozos sur les réseaux sociaux. Je crois que ça serait beaucoup trop simple, et en plus ça ne reflèterait pas du tout la réalité du terrain.
Donc pour vous, les solutions pour tenter de réparer cette rupture entre journalistes et population, ça se tournerait vraiment vers l'éducation aux médias des jeunes et des moins jeunes?
Des jeunes et des moins jeunes, parce que je ne vois pas pourquoi ça serait que les jeunes. Les jeunes ne sont pas, contrairement à une certaine idée reçue, davantage attirés par les théories conspirationnistes que les autres. Il y a peut-être, éventuellement, il faut voir, une question sur cette génération aujourd'hui qui est née avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, peut-être, ça reste à démontrer. Mais lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui sur les discours relatifs à la vaccination de la Covid-19, le profil, c'est pas des jeunes, c'est plutôt des gens plutôt âgés, plutôt aisés, hommes avec des diplômes, des savoirs, etc. Donc oui, l'éducation, elle est valable pour tout le monde, mais pour vous, pour moi, lorsqu'on utilise des supports techniques, sociotechniques, que sont les réseaux sociaux, YouTube, etc., on est déjà sur une plateforme qui a une vision stratégique, qui est idéologisée. Les algorithmes ne sont pas neutres, elles sont pensées comme ça. Alors évidemment, on ne prend pas toujours la peine de déconstruire et d'interroger, mais il faut le faire. Je crois qu'il faut qu'on le fasse tous, tout le temps, et pas pour utiliser ça comme ça, comme c'est un simple outil. Oui, c'est un outil, mais c'est un outil qui est lui-même pensé, conçu, orienté idéologiquement. Ça, c'est tout à fait important à garder en tête. Une image, elle ne dit pas la vérité en elle-même. Elle est construite. Elle parle d'un angle. Un média alternatif qui prétend filmer en continu pendant 4 heures une manif, eh ben, elle a aussi un angle, elle a aussi un cadrage. Elle a aussi une focalisation. C'est important de le rappeler. C'est pas, elle est peut-être, elle est différente de celle de la chaîne d'info en continu, mais elle existe aussi. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas d'un côté un média qui filmerait la réalité en tant que telle, et de l'autre un média qui ferait du montage et qui piperait tout. Non, ça c'est pas vrai.
Donc retrouver en somme une vision moins manichéenne en fait des médias et des possibilités de médias.
Oui, bien sûr, expliquer le travail de journaliste. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous disais tout à l'heure que moi, quand je rencontre mes enquêtés, ils connaissent très mal le métier de journaliste. Ils font pas, pour eux, journaliste, c'est l'éditorialiste des plateaux télé. C'est pas le soutier, c'est pas le pigiste qui va tous les jours essayer de galérer pour se faire payer 3 reportages, 3 photos un 14 juillet, etc. Non, non. Ça, C'est des choses qu'il faut vraiment expliquer, répéter, comment va travailler un journaliste, comment il va faire, comment lui-même aussi est prisonnier de contraintes du média. Alors évidemment, il y a des choses qui sont évidemment assez insupportables, une certaine forme de victimisation, une certaine forme de mise en scène de soi-même. Je disais tout à l'heure, ces éditorialistes parisiens qui ont quasiment tous le même point de vue, de plus en plus droitier, et qui est de plus en plus dominant. Oui, effectivement, ça, c'est insupportable, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème à critiquer ça. Mais là, je crois qu'il faut vraiment aussi, peut-être dans votre métier, faire l'effort d'aller vers les gens, d'expliquer le métier et ne pas prendre peut-être trop à cœur certaines représentations que les journalistes ont d'eux-mêmes, celui de pédagogue, de démopède, etc. Certains le prennent tellement à cœur qu'ils en deviennent quasiment des sortes de chevaliers blancs et ils sont incapables d'entendre toute forme de remarque, toute forme de contestation, et cette espèce de ton parfois un peu moralisateur, un peu méprisant, il est lui-même encore une fois tout à fait contre-productif et il pousse les gens à se détourner encore plus des médias. Ils ne comprennent pas ce que je vis, t'as vu comment il nous parle, il se prend pour qui le Parisien, etc. Donc ça, c'est tout à fait contre-productif.
C'était Julien Giry, chercheur à l'Université de Tours, au micro de Pauline Linard-Cazanave. Un entretien enregistré au Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne il y a quelques jours, que vous pouvez retrouver en version longue sur le podcast de l'Atelier des médias.
RF.
Avant de se quitter, place à Mondoblog Audio, qui vous fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. J'ai appris que le 17 juillet, samedi, donc, c'était la journée mondiale des émojis. Vous savez, ces petites icônes qui ponctuent nos conversations sur WhatsApp et autres messageries instantanées. La parole est à William Fotsofonkam de Yaoundé, au Cameroun.
Sur Internet, le langage évolue très vite. On écrit comme si on était à l'oral. À la lointaine époque où le téléphone portable faisait son entrée fracassante au Cameroun, les utilisateurs découvraient avec émerveillement les SMS. Et déjà, on se plaignait de l'influence néfaste que l'écriture SMS avait sur le niveau de français de nos frangins. C'est vrai que ce n'est pas facile de faire un bon Kongosa en seulement 160 caractères. On s'est vite retrouvé avec des lettres et des chiffres mélangés pour former des mini-mots. À l'époque, on croyait avoir tout vu, mais la vulgarisation d'Internet n'a fait qu'empirer les choses. Je me rappelle encore de feu Yahoo Messenger, paix à son âme, et de ses codes réservés aux initiés. ASL, Age Sex Location, BBS, Be Back Soon, IMO, In My Opinion, etc. C'était l'époque des ingénieurs de son, ceux-là qui n'écrivaient que ce qu'ils entendaient et en utilisant le moins de caractères possible. Puis, il y a eu les réseaux sociaux. Quand Facebook et Twitter sont entrés dans la bagarre, c'en était définitivement fini de l'orthographe correcte et du bon français. On entendait même des gens dire « lol » au lieu de rire. Aujourd'hui, les choses sont pires encore. Les émojis sont partout. Impossible d'y échapper. Fou rire aux larmes et clin d'œil bisous, ça vous dit quelque chose ? Une bonne vieille grimace typographique et fini les fautes d'orthographe. Les émojis ont envahi nos claviers. Ils sont infiltrés, sont de plus en plus nombreux et gagnent du terrain. Ces mutants phagocytent littéralement tout ce qui contient une lettre ou un chiffre. Même pour des chiffres, il existe des émojis. Désormais, on peut tenir une conversation sans un seul mot en n'utilisant que des émojis. Les mots ont presque disparu. Rares sont ceux qui survivent au milieu de ces petits visages souriants ou tristes, rigolards ou larmoyants. Alors, aux armes, citoyens, retournons à nos 26 lettres pour combattre l'ennemi. À la rigueur, utilisons les émojis puisqu'ils sont déjà parmi nous et qu'après tout on les aime bien. Mais sous aucun prétexte ne laissons tomber l'alphabet. Pour terminer, je ne vous dis donc pas « smiley », mais tout simplement « salut ».
Mondoblog.org.
William Fotsofonkam de Yaoundé a retrouvé sur lepetitecolier.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, je remercie Simon Decreuse qui en a assuré la réalisation. Camille Deloche était aux manettes de Mondoblog Audio. Si vous écoutez ce programme à la radio et que vous avez raté le début, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute en version longue sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. No.